pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 18 mars et aujourd'hui nous allons parler de la numismatique.
Portée sur l'étude des monnaies et des médailles, la numismatique est considérée comme une science auxiliaire de l'histoire. Mais concrètement, en quoi consiste-t-elle? Comment étudie-t-on les monnaies et qu'est-ce que ça nous apprend sur les anciens usages monétaires? Pour en parler, nous serons accompagnés de Pierre-Marie Guillard, ingénieur de recherche et responsable du service numismatique du CRAM, le centre de recherche archéologique et historique ancienne et médiévale, et de Thibaut Cardon, chargé de recherche CNRS et également membre du service de numismatique du CRAM.
Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et pour commencer, une fusée de SpaceX a décollé vendredi dernier en direction de l'ISS pour amener deux astronautes bloqués dans l'espace.
Ils ne devaient rester que 8 jours et ont finalement été bloqués 9 mois en raison de problèmes techniques. Sunny Williams et Butch Wilmore, deux astronautes américains, ont décollé en juin dernier à bord de la capsule de Boeing. Leur retour avait été annulé en raison d'une défaillance détectée sur le système de propulsion de la capsule.
Et leur mésaventure serait donc sur le point de se terminer.
Exactement, la fusée Falcon 9 SpaceX a décollé vendredi 14 mars du Centre Spatial Kennedy avec 4 membres à son bord. Ils ont rejoint la Station Spatiale Internationale à 400 km de la Terre ce dimanche 16 mars pour assurer la relève et permettre le retour des deux astronautes. La capsule de SpaceX devrait amerrir au large de la Floride ce mercredi. Un fossile humain de plus d'un million d'années a été découvert au nord de l'Espagne.
Et oui, baptisé Pink, il a été révélé la semaine dernière dans un article de la revue Nature. Il s'agit d'un fragment de crâne humain et plus spécifiquement d'un bout de mâchoire supérieure et d'un morceau d'os zygomatique. L'homme à qui appartiendrait ce squelette serait mort il y a 1 à 1,4 million d'années, ce qui fait de lui le plus vieux fossile humain jamais découvert en Europe occidentale.
Et donc, que nous apprend ce fossile ?
À partir de ces morceaux, les chercheurs ont pu reconstituer numériquement le visage de Pink. Ils ont ainsi pu identifier des similitudes avec l'Homo erectus, sans pouvoir établir de correspondance exacte avec l'espèce. Il pourrait donc s'agir d'une variante locale ou d'une lignée encore inconnue. Les outils fossiles retrouvés à ses côtés vont permettre aux chercheurs d'avoir un aperçu plus détaillé de l'environnement et du mode de vie de ce spécimen. Des oiseaux marins contaminés par la pollution plastique développeraient des maladies similaires à Alzheimer ou Parkinson.
C'est du moins ce que révèle une étude publiée dans Science Advances par des chercheurs de l'université de Tasmanie. Et les scientifiques se sont concentrés sur une espèce bien précise, le puffin à pied pâle. Observable entre l'île Lord Howe en Australie et le Japon, cet oiseau migrateur subirait des dommages cérébraux à cause de la pollution plastique.
Mais comment en sont-ils venus à cette conclusion ?
En analysant des dizaines de poussins avant leur premier voyage migratoire, pour un certain nombre, ils avaient accumulé des quantités importantes de plastique dans leur estomac après avoir été nourris par leurs parents avec des déchets ingérés en mer. Des tests sanguins ont été réalisés et les résultats sont sans appel. Le schéma de protéines de ces poussins serait très similaire à ceux des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Cette nouvelle étude révèle des conséquences dramatiques de la consommation de plastique, même sur des espèces qui semblent en très bonne santé. Jeudi dernier, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a publié une étude sur l'importance des régimes végétariens sur notre santé.
Selon son expertise, se passer de viande et de poisson diminuerait le risque de certaines pathologies, comme le diabète de type 2, les troubles ovulatoires, voire même certains cancers. En contrepartie, l'agence a observé davantage de fragilité osseuse chez les végétariens. Elle met également en garde vis-à-vis des risques de carence.
Alors à quoi faut-il faire attention pour garder une alimentation équilibrée lorsqu'on est végétarien ?
L'ANSES a identifié plusieurs nutriments à risque d'insuffisance, le fer, l'iode, les oméga-3 et la vitamine D, auxquels s'ajoutent pour les végétaliens la vitamine B12 et le zinc pour les hommes. Pour aider à mieux couvrir ses besoins nutritionnels tout en gardant ses habitudes, l'agence a élaboré des repères alimentaires. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'ANSES. Le télescope James Webb a détecté du CO2 sur une planète en dehors de notre système solaire.
Vous vous en souvenez peut-être, en 2022, James Webb avait déjà détecté du dioxyde de carbone sur l'exoplanète WASP-39, mais cette observation a été dite indirecte. Or, ce lundi 17 mars, la NASA a annoncé la découverte directe de CO2 sur des planètes dans le système HR-8799 situé à 130 années-lumière de la Terre.
Et comment ont-ils fait pour détecter ce CO2 ?
En utilisant les coronographes du télescope, ces instruments permettent d'occulter la lumière intense d'une étoile pour mieux observer son environnement. Ils ont donc pu observer directement la lumière lumière émise par la planète elle-même. La découverte de CO2 dans HR 8799 devrait donc nous permettre d'en apprendre plus sur la formation de ces exoplanètes. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 15 ans, le 18 mars 2010, le mathématicien russe Grigori Perelman déclinait le prix du millénaire.
D'une valeur $1 million, ce prix vient récompenser la résolution de chacun des problèmes du millénaire, un ensemble de 7 défis mathématiques réputés insurmontables. Avec sa démonstration de la conjecture de Poincaré en 2002, Grigori Perelman est le premier et le seul jusqu'à maintenant à avoir trouvé la solution à l'un de ses problèmes.
Mais alors pourquoi Grigori Perelman a-t-il refusé ce prix ?
Eh bien, pour critiquer la communauté mathématique dans sa façon injuste d'attribuer ce type de récompense, il estimait que la contribution du mathématicien américain Hamilton n'était pas moindre que la sienne dans la résolution du problème. De manière générale, Perelman ne semblait pas intéressé ni par l'argent ni par la reconnaissance. En 2006, il avait déjà décliné la médaille Fields, considérée comme l'équivalent du Nobel en mathématiques. Il s'est depuis totalement retiré de la vie académique.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
La première monnaie a vu le jour où, au 7e siècle, avant JC, en Asie mineure, rapidement suivie au cours du temps par des milliers d'autres espèces monétaires. Et certains ont fait de leur étude leur métier, ce sont les numismates. Mais alors, en quoi consiste leur travail? Comment étudie-t-on les monnaies et comment nos usages ont-ils évolué avec le temps?
Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre-Marie Guillard, ingénieur de recherche et responsable du service numismatique du CRAAM, le centre de recherche archéologique et historique ancienne et médiévale. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également accompagnés de Thibaut Cardon, chargé de recherche CNRS et membre du service de numismatique du CRAAM. Bonjour.
Bonjour.
Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste la numismatique ?
Alors la numismatique, c'est assez simple. C'est l'étude qui consiste à s'intéresser aux monnaies anciennes, aux monnaies anciennes. Alors qu'est-ce qu'on entend par monnaies anciennes ? Ce sont des monnaies qui ont été produites par les sociétés qui nous ont précédées. En gros, ce sont des productions de monnaies qui aujourd'hui n'ont plus cours dans notre système actuel dans notre système actuel monétaire. Donc ça concerne aussi bien des monnaies frappées, donc vous l'avez dit, à l'époque grecque, mais aussi à l'époque romaine ou encore à l'époque celtique gauloise.
Et donc.
Et voilà.
Et médiévale et moderne, bien sûr.
Donc quel est l'intérêt d'étudier ces monnaies ? Qu'est-ce que ça nous dit sur les époques passées ?
Alors ça nous dit beaucoup de choses. La monnaie en tant que telle, elle est finalement polysémique, c'est-à-dire qu'elle va nous en apprendre autant sur les méthodes, les techniques de fabrication. Donc, quelles étaient les techniques employées pour fabriquer telle ou telle monnaie. Ça va nous apprendre sur les politiques aussi monétaires suivies par les différents États. Sans forcément rentrer trop dans le détail, la monnaie pendant l'Antiquité, eh bien, sa valeur se définit autant par la masse, donc le poids, que par le titre, donc c'est-à-dire la part de métaux précieux que l'on va mettre dedans. Donc étudier finalement l'évolution du titre d'une monnaie, par exemple romaine, ça nous informe aussi sur les politiques monétaires qui sont suivies à travers le temps. Et à côté de ça, vous avez aussi des informations très importantes en termes d'usage monétaire, donc la façon aussi dont les usagers au quotidien pouvaient être amenés à utiliser les monnaies. Donc finalement, on part de la fabrication jusqu'à l'usage, jusqu'à la perte aussi de la monnaie, en passant par les questions de politique monétaire développées par les différents États.
Et donc certains monnayages sont très bien documentés, comme ceux de l'Empire romain, mais certains sont-ils encore aujourd'hui un mystère pour les numismates ?
Alors oui, évidemment, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a des périodes de l'histoire qui sont extrêmement mal documentées par les sources écrites. Donc c'est-à-dire que pour les périodes médiévales, enfin pour le bas Moyen-Âge ou l'époque moderne, on a beaucoup de sources écrites qui nous permettent de comprendre les structures politiques de l'époque et donc ça nous aide à classer mieux les monnaies de ces périodes-là. Mais il y a tout un tas de périodes sur lesquelles on a très peu, voire aucune source écrite. Et donc le cadre est déjà beaucoup plus flou. C'est par exemple le cas des monnaies celtiques ou des monnaies, on va dire, du haut Moyen-Âge, notamment les monnaies mérovingiennes. On a très peu de sources écrites et on a énormément de monnaies. Donc à la fois la monnaie est une source très précieuse pour étudier ces périodes-là, Et en même temps, on a beaucoup de difficultés à savoir comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on classe, comment est-ce qu'on étudie les monnaies de ces périodes-là qui parfois peuvent être extrêmement variées. On connaît pour la période mérovingienne des milliers ou des dizaines de milliers de monnaies différentes. Et on ne sait pas forcément comment toujours bien les organiser. Et c'est un peu le même problème pour la période celtique. Donc oui, il y a encore énormément de choses à faire sur certaines périodes. Ouais.
Et donc on en parlait rapidement en introduction, la première monnaie, elle a vu le jour au 7e siècle avant JC en Asie mineure. Est-ce qu'on en sait davantage sur cette dernière? Comment elle a été créée? Comment ça fonctionnait?
Alors, ça découle d'un long processus finalement. Avant l'apparition de la monnaie en tant que telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc ce morceau de métal rond qui a une valeur particulière, les sociétés passées étaient amenées à utiliser les métaux au poids ou sous forme de lingots. Donc c'est pour faciliter finalement l'usage des métaux en tant que valeur, en tant qu'intermédiaire pour réaliser des paiements ou des échanges, que la monnaie s'est développée. Parce que l'avantage de la monnaie, c'est qu'à travers la marque qui est portée dessus, sur un métal, sur un lingot, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas d'indication du pouvoir qui vient garantir finalement la valeur du métal. À la différence de la monnaie, vous avez une marque et cette marque, elle vient garantir la valeur, donc à la fois le poids, je le disais tout à l'heure, et le titre de la monnaie. Donc c'est aussi pour des questions de facilité qu'on en est venu finalement à développer cet outil pour rendre finalement les paiements, les échanges beaucoup plus fluides, puisque la marque est censée garantir la valeur d'une monnaie. Donc en principe, vous n'avez plus la nécessité de peser votre rondelle de métal, puisque sa valeur est garantie par l'autorité émettrice qui est représentée sur la monnaie.
Et donc, à quoi elle servait la monnaie à cette époque?
Alors, c'est difficile, comme le disait Thibault, c'est une époque aussi pour laquelle on manque de sources, de sources écrites. Ce que l'on sait, c'est ce que nous dit finalement la monnaie. Ces premières monnaies sont avant tout des objets qui sont en métaux précieux. Donc en principe, une monnaie en tant que telle, à cette époque-là, ne vous permettait pas de réaliser des achats du quotidien. Donc du moins d'être utilisé facilement au quotidien. Donc on peut penser que les premières monnaies étaient avant tout réservées à la réalisation de paiements relativement importants. Donc ça, c'est ce que nous dit finalement en tant que telle la monnaie. Et lorsque le système va se développer, va s'ouvrir aussi à d'autres métaux, la frappe du bronze, qui est un métal un peu plus vil, là on peut penser que la monnaie va être utilisée un peu plus au quotidien. Et c'est là aussi que les contextes archéologiques nous en apprennent plus. C'est qu'on va avoir, on va voir apparaître un peu plus les monnaies dans des sphères qui concernent plutôt des activités du quotidien. Donc tout ça est affaire d'un long développement.
Et là, ce que Pierre-Marie expliquait, c'est l'intérêt de la monnaie du point de vue de la circulation monétaire, donc plutôt des usagers. Mais un des autres intérêts de la monnaie, et on le voit dès les périodes les plus anciennes, c'est aussi que c'est une source de revenus pour les personnes qui les frappent, donc pour l'État ou les autorités émettrices. C'est-à-dire que certifier un lingot de métal précieux, ça demande un peu de travail, de mise en forme. Et il y a toujours une part de ce métal précieux qui est retenu en forme d'impôt, on va dire, par l'émetteur. Et c'est quelque chose qu'on appelle le seigneuriage au Moyen-Âge, mais qui existe en fait à toutes les périodes, c'est que frapper des monnaies, c'est aussi une source de revenus pour les États. Donc l'intérêt est aussi très différent. C'est certifier des lingots, on certifie, mais on en garde une partie. Voilà.
Et on dit aussi que finalement le développement de la monnaie, en tout cas c'est reconnu pour la période grecque, accompagne aussi un développement de l'impôt, donc du prélèvement de l'impôt par les États. Donc c'est une façon aussi de faciliter la richesse, les rentrées d'argent pour les caisses publiques.
Donc vous l'avez rapidement évoqué, mais quand on parle de trouvailles monétaires, est-ce qu'on parle forcément de pièces ou est-ce qu'il y a autre chose concrètement? C'est quoi une trouvaille monétaire?
Alors, trouvailles monétaires, on peut en faire plusieurs définitions, mais c'est vrai que dans l'imaginaire commun, on voit une caisse avec plein de monnaies, plutôt en or, en vrac, ou alors un trésor de pirate, où on va avoir des bijoux, des lingots, etc., des pierres précieuses. Nous, on a une approche un peu plus terre-à-terre et qui correspond un peu plus à la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un dépôt monétaire ou un trésor en archéologie, nous, on dit que c'est à partir de deux monnaies où on prouve qu'elles ont été déposées ou perdues ensemble. Donc, y compris un tout petit porte-monnaie, par exemple, pour nous, ça fait partie de ce qu'on appelle la grande famille des dépôts monétaires, des trésors, parce que ça nous permet d'étudier un assemblage. Quelles sont les monnaies qui ont pu circuler ensemble à un moment, dans une même poche. Donc, très souvent, effectivement, ça va être quelques monnaies, des dizaines, des centaines, des milliers de monnaies, parfois des dizaines de milliers dans certains cas. Et très souvent, ça se limite quand même à des monnaies qui vont être dans des vases, dans des caisses en bois, dans des bourses en tissu ou en cuir, parfois tout ça un peu imbriqué les uns dans les autres. Et de façon occasionnelle, on va avoir d'autres objets qui sont mis avec. Donc pour la période médiévale, on a parfois quelques bijoux, quelques fragments de bijoux, on va avoir des tout petits lingots de métal précieux, on va avoir ce genre de choses, mais ça reste pas le cas général. Voilà. Ça reste plutôt assez rare.
En tout cas, il est vrai que les trouvailles monétaires vont nous renseigner avant tout sur les différentes manipulations aussi dans les usages monétaires, donc en tant que tel. C'est-à-dire que les trouvailles monétaires, si tu te dis, c'est à la fois des dépôts, des trésors de monnaie, mais également des monnaies qui sont perdues une à une, qui sont perdues parce qu'on on est amené à les utiliser un peu fréquemment, donc on est aussi amené à les perdre. Donc les trouvailles monétaires, ça regroupe à la fois ces accumulations de monnaie, ces accumulations volontaires, mais également ces monnaies que l'on a pu perdre sur un lieu de marché ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça recouvre l'ensemble un ensemble de configurations qui concernent les usages dont il était fait de la monnaie.
On peut aussi avoir des cas qui ne sont pas les plus courants, mais qui sont relativement bien attestés, de monnaies qui sont volontairement abandonnées. Donc on va voir ça, par exemple, dans des sépultures, ou alors dans une construction, ou dans les fondations d'une construction. Alors c'est ce qui se fait encore aujourd'hui parfois, hein, voilà, on met une pièce de l'année en cours sous la première pierre d'un bâtiment. Ça, c'est des choses qui sont assez bien attestées dans l'histoire, et aussi voilà, dans les sépultures, même des sépultures de Kidam, on va retrouver parfois des monnaies posées dans la main. Donc c'est tout un tas de raisons différentes à ce que des monnaies soient dans la terre et qu'on puisse les retrouver aujourd'hui, soit dans le cadre de fouilles archéologiques, soit par le hasard, on va dire.
Et alors, comment on fait pour identifier ces monnaies ?
Alors, pour identifier ces monnaies, il y a tout un protocole, une méthode qu'on a apprise, qu'on a développée et qu'on transmet maintenant. Ça repose avant tout dans un premier temps, sur de l'observation, tout simplement. C'est un objet qui présente des figures, qui présente des légendes, donc des mots, pour faire simple. Eh bien, dans un premier temps, il faut pouvoir les décrire. Donc, ça repose uniquement sur l'observation des deux faces. Voilà ce que l'on voit, ce que je lis. Et ensuite, vous êtes amené à identifier finalement l'ensemble des relevés que vous avez fait. Donc, qu'est-ce que nous apprend la figure que j'ai relevée ? Est-ce que c'est la représentation d'une tête d'empereur romain ou je ne sais quoi d'autre ? Qu'est-ce que nous dit finalement la légende que nous avons relevée ? Est-ce que ça nous apprend que tel empereur avait telle titulature, tel titre à un moment donné de son cursus honorum ? Voilà, donc c'est affaire de lecture, de description et ensuite d'identification. Et pour cette identification, bien évidemment, on est épaulé, disons, par ce qu'on appelle dans notre jargon des ouvrages de typologie qui vont nous permettre de resituer telle ou telle monnaie dans son cadre de frappe, donc c'est-à-dire son lieu d'émission, tel ou tel atelier, sa période d'émission, donc quand la monnaie a été frappée, etc. Donc il y a différents degrés, finalement, dans l'étude des monnaies, de la description à l'identification.
Et ça arrive de tomber sur des fausses monnaies, je ne sais pas si le terme de contrefaçon est adapté dans ce cadre-là ou...
Alors, le terme de contrefaçon est tout à fait adapté. Depuis que la monnaie existe, la contrefaçon existe, le faux monnayage existe. Et pour les périodes antiques, justement, on a de très beaux exemples de pratiques de faux monnayage qui sont très bien attestées par différentes découvertes, dont une en particulier que j'étudie en Égypte, qui est un programme qui est soutenu par le CRAM et qui a pour objectif d'étudier un atelier de faux monnayeurs du 4e siècle après notre ère. Et la particularité de cet atelier de faux monnayeurs, c'est d'avoir mis en place une contrefaçon par moulage. C'est-à-dire qu'à l'époque, sans trop rentrer dans le détail, à l'époque romaine, la monnaie est avant tout frappée. C'est-à-dire qu'une monnaie va être frappée entre ce qu'on appelle des coins monétaires. Donc ça, c'est l'usage officiel reconnu. Et à côté de ça, des faux monnayeurs vont décider de contourner finalement cet usage en moulant des monnaies, c'est-à-dire en produisant des moules à partir d'empreintes de monnaies frappées pour produire des monnaies coulées. Et en détournant également le contenu même d'une monnaie, de ce qu'est une monnaie officielle, en changeant les métaux pour que le gain à l'arrivée soit beaucoup plus intéressant. Donc oui, on a des pratiques de faux monnayage qui sont bien attestées et qui détournent finalement la norme officielle de production monétaire. Et donc ça, vous avez différents phénomènes au cours notamment de l'Antiquité existent, qui ne sont pas continus dans le temps, mais qui apparaissent à des moments très particuliers de l'histoire.
Est-ce qu'on arrive à retracer le parcours d'une monnaie ?
Alors, vous entendez sa vie, sa biographie individuelle d'une monnaie depuis qu'elle est sortie de l'atelier monétaire jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre laboratoire pour être étudiée.
C'est ça.
Ouais. Là, on est souvent assez démunis puisqu'on ne voit pas on voit pas les mains par lesquelles elle est passée. Parfois, on arrive à retracer des éléments quand on a des monnaies qui viennent de très loin, par exemple, et où on va avoir une diffusion connue de ces monnaies-là, par exemple via les axes fluviaux, où on peut se dire que très probablement telle monnaie qui vient d'une zone très très éloignée est arrivée à cet endroit-là en remontant le fleuve par une série d'échanges. On peut émettre des hypothèses comme ça, mais ça reste des moyennes d'interprétation. Et à la limite, les éléments de biographie de la monnaie d'un exemplaire précis qu'on peut avoir, c'est sur les derniers instants. Et donc là, nous, c'est là que vraiment, la dimension archéologique elle prend son sens. C'est-à-dire que si on a une monnaie qui va être dans une fosse dépotoir et dont l'oxydation va receler des petits morceaux de charbon et de cendres, on peut se dire que cette monnaie a sans doute été perdue dans une zone d'habitation, qu'elle a été balayée, rejetée dans la zone où il y avait le feu avec toutes les balayures, et qu'à ce moment-là, bah voilà, elle s'est prise dans le feu, elle a été brûlée, on a des exemplaires qui sont un peu cloqués, et que dans la corrosion va ensuite se mêler des petits morceaux de cendres qui vont rester, et ensuite l'ensemble va être évacué. Donc je sais pas si c'est très clair, mais c'est ces dernières phases qu'on peut parfois observer et qui vont nous aider aussi à comprendre comment est-ce que les gens entretenaient leur niveau de sol. Comment est-ce qu'on balayait, comment est-ce qu'on rejetait ce genre d'objet. Ça va être ce genre d'éléments qu'on peut avoir, et la réflexion elle peut être peut-être encore plus poussée pour les dépôts monétaires, où tout à l'heure je disais que la vision un peu classique était d'un grand paquet de monnaies précieuses en vrac. On s'aperçoit avec l'étude archéologique, et nous c'est une de nos spécialités au CRAM, qu'en fait très souvent les monnaies elles sont triées dans des sacs différents, dans des poches de textile ou de cuir différentes. Et de la même façon que chacun ou chacune d'entre nous qui a un porte-monnaie va mettre les billets d'un côté et les pièces de l'autre, quand vous n'avez que des pièces, mais de valeurs très très différentes, en or, en argent et en cuivre, on va dire, vous les triez aussi parce que c'est plus simple au quotidien, c'est plus simple pour payer, c'est plus simple pour gérer, avoir une bonne vue de votre argent. Donc là, en fonction de la façon dont les monnaies sont triées, on peut éventuellement essayer de comprendre d'où elles viennent et à quoi elles sont destinées.
Vous avez aussi d'autres traces qui sont intéressantes sur les monnaies. Il y a certaines monnaies qui présentent des perforations, des trous. Et donc là, on voit bien que la monnaie a été détournée de sa fonction initiale, celle de servir de moyen d'échange, pour être probablement montée en pendentif, par exemple. Vous avez d'autres exemplaires de monnaies qui sont cisaillées, coupées en deux, où là, probablement, on a voulu diviser la valeur de la monnaie pour permettre d'avoir des liquidités un peu plus fines pour réaliser peut-être un peu plus de paiements, ou en tout cas pour avoir plus de précision lors de certains paiements. Donc voilà, donc il y a des traces aussi plus directes sur, sur la monnaie qui nous permettent de comprendre aussi l'évolution finalement dans l'usage, dans les usages monétaires.
Et donc, très concrètement, comment ça se passe quand un ensemble monétaire est découvert? Quelles sont les différentes étapes entre la découverte très brute et la publication?
Alors, il y a des cas de figure différents, mais le cas classique, c'est, on va dire, des monnaies trouvées dans le cadre d'une fouille archéologique, donc par des opérateurs d'archéologie préventive, publique ou privée, ou par des services archéologiques. Dans le cadre de l'archéologie programmée. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va être contacté peu après la trouvaille ou au moment de la trouvaille pour en assurer la prise en charge. Soit ce sont des monnaies qui ont été perdues une par une, et dans ce cas-là, elles nous arrivent sous forme de sachets plastiques avec chacun un numéro d'enregistrement et une monnaie. La monnaie étant brute de sortie du sol, donc avec encore tout un tas de terre et de concrétion. Ce qui est très bien, hein. Ou alors même sous forme d'un dépôt monétaire qui peut nous arriver intact, et nous c'est vraiment là-dessus qu'on insiste, c'est que quand les gens, archéologues ou kidam, trouvent un dépôt monétaire, il faut absolument toucher à rien et nous l'apporter en bloc, parce que justement ça nous permet nous ensuite de faire ce qu'on appelle une fouille en laboratoire. Donc on pose le bloc de terre avec la céramique et les monnaies dedans, et encore le textile, etc., et le cuir, et on va démonter très précautionneusement tous ces éléments-là, détacher les monnaies, noter tout ce qu'on voit, prendre des photos, et c'est cet enregistrement-là des informations qui nous permet ensuite, nous, de faire une restitution, d'en faire une étude la plus fine possible. Donc, ensuite, les monnaies, on les obtient donc soit individuellement dans des sachets, soit démontées comme ça dans des pots monétaires. Et très concrètement, pour les néophytes, ça ne ressemble pas à grand-chose à ce moment-là. C'est une rondelle, souvent, de métal oxydé avec de la terre. Il y a forcément une phase de nettoyage, quasiment, à part pour l'or. Mais il y a une phase de nettoyage que nous, on assure au laboratoire de numismatique, au service de numismatique du CRAM. Donc, il peut être un nettoyage mécanique ou un nettoyage chimique, avec ensuite stabilisation, séchage, etc. Et qui nous permet au moins d'assurer autant que possible une lecture des éléments iconographiques, légendes, types, etc., dont Pierre-Marie parlait juste avant.
Vous venez de dire, à part l'or, il y a différentes manières de nettoyer et de traiter ces monnaies selon les matériaux, selon ce qu'elle est.
Oui, tout à fait. Alors on n'est pas restaurateur. On assure un nettoyage. On suit une méthodologie parfaitement rigoureuse, mais on n'est pas restaurateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, selon les métaux, vous n'allez pas appliquer la même méthode. Des monnaies qui sont en or ou en argent, donc des métaux plutôt précieux, sont des métaux qui s'oxydent très peu. Donc au moment de leur découverte, il n'est pas toujours, même n'est jamais nécessaire de procéder à un nettoyage trop précis comme on le ferait pour des métaux en alliage plus vil, comme le bronze par exemple. Parce que le bronze, parce qu'il a une part de cuivre, va s'oxyder beaucoup plus vite. Et des monnaies qui ont séjourné dans la terre et qui sont en bronze, eh bien, on les retrouve souvent très corrodées, ce que disait Thibault. Donc là, il faut procéder à un nettoyage un peu plus fin des exemplaires. Alors ceci étant, étant donné qu'on travaille avant tout sur des découvertes effectuées en contexte archéologique, donc ce sont souvent des monnaies qui ont été perdues à l'époque, aux anciennes époques. Donc ce sont des monnaies qui ont souvent été brassées dans la terre. C'est souvent donc des petites monnaies en alliage de cuivre. Donc évidemment, on est souvent confronté à des exemplaires qui sont souvent très corrodés et qu'il faut nettoyer. Les découvertes de monnaies en argent ou en or sont plutôt assez rares. En tout cas, à partir du mobilier sur lequel on travaille. Donc notre lot quotidien, c'est avant tout des monnaies d'usage du quotidien. Voilà, donc c'est de la petite monnaie, ces monnaies nous offrent un visage tout à fait intéressant des vrais usages aussi des monnaies, la fonction des monnaies à l'époque. Voilà.
Dans quelques instants, on va continuer de parler de numismatique avec vous, Thibaut Cardon et Pierre-Marie Guillard, Mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter 2013 de Yoa. A tout de suite sur C'est pas faux.
Ramenez-moi en 2013. Les années passées, passées, moi j'en avais 13. Sourire bizarre, cœur mal à l'aise. Perdu dans les montagnes, pognon sur la falaise. Coincé sur YouTube, je traîne. Tous les jours, je regarde des clips. Et dans ma chambre, je m'entraîne à faire les cours et ces techniques. American Apparel, moi aussi, je le veux, le sweat. Pour être enfin la plus belle, pour devenir la favorite. J'écoute Soko, je me sens seule, je fais mes devoirs en pleurant. Olivia et Vio me disent que ça passera avec le temps. Ramenez-moi en 2013. Les années passées, passées, moi j'en avais 16. Souvenirs bizarres, cœur mal à l'aise. Perdu dans les montagnes, pognon sur la falaise. Chez Mathieu sur le balcon, je rêve de plus en plus grand. Je ne plaisais ni aux filles ni aux garçons, c'est embêtant. J'apprends à me faire vomir. Quand je serai mince, ça ira mieux. Pour le meilleur comme le pire, je fais que jongler avec les deux. J'écoute Soko, je me sens seule et personne ne me comprend. Lena et Anjo me disent que ça passera avec le temps. Ramenez-moi en 2013. Ramenez-moi en 2013. Ramenez-moi en 2013. Ramenez-moi en 2013.
C'était 2013 de Yoa. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Thibaut Cardon et Pierre-Marie Guillard pour parler de la numismatique. Et vous êtes tous les deux membres du CRAM, on l'a évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que vous travaillez au sein de ce dernier? Comment ça s'organise?
Alors, le laboratoire est spécialisé dans l'histoire et l'archéologie. Et son champ de recherche concerne l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le laboratoire est... Et c'est sa spécificité aussi, est divisé en plusieurs services spécialisés, dont la numismatique. Vous avez un service qui est dédié à l'anthropologie, donc à l'étude des ossements. Un service qui est dédié à l'étude de la céramique, des céramiques anciennes, mais également de l'archéométrie, donc dans une approche un peu plus scientifique de composition en fait des pâtes argileuses. Donc voilà, donc on a une série de services, disons, spécialisés sur des... discipline, disons, particulière.
Et donc, au sein du service de numismatique, vous prenez en charge les découvertes monétaires. Est-ce que vous prenez en charge seulement les découvertes en Normandie? Est-ce que vous allez au-delà aussi?
Alors, nous, en fait, on a deux canaux par lesquels on travaille. Le premier, c'est effectivement les découvertes monétaires faites, donc, ou dans le cadre de l'archéologie, ou fortuitement, qui vont nous arriver, pour lesquels on va être sollicité. Là, l'ampleur initiale du service, quand il a été fondé en 1978, c'était plutôt de travailler sur la Normandie. Mais en fait, très rapidement, la personne qui était là à l'époque, Jacqueline Pied-Lemière, s'est mise à travailler sur des sites bien plus loin, parce que c'est une spécialité qui est quand même assez rare, la numismatique en général, et encore plus l'archéonumismatique, le fait d'étudier des monnaies venant de fouilles archéologiques. Donc maintenant, on travaille sur à peu près toute la France. Alors, on a un peu des préférences sur le quart nord-ouest, mais on est quand même amené à travailler un peu partout. Donc ça, c'est le premier canal des travaux qui vont nous arriver. Et là, c'est vraiment un peu la surprise d'une semaine à l'autre. Et le deuxième gros canal, c'est des travaux de fond, donc des projets de recherche pour lesquels soit on va les mener l'un ou l'autre ou conjointement sur la longue durée, pour lesquels ponctuellement on peut aussi demander, monter des projets pour avoir des financements dédiés, pour soit avoir des dépenses spécifiques, des achats d'instruments, faire mener des campagnes d'analyse, embaucher aussi des jeunes collègues qui ont souvent été formés chez nous, mais pas que, et qui vont venir nous épauler sur des projets de recherche particuliers. Et donc dans ce cas-là, ces projets-là sont un peu distincts des trouvailles au jour le jour. Donc ce que Pierre-Marie mentionnait tout à l'heure, la fouille de l'atelier de faux monnayage en Égypte du 4e siècle après Jésus-Christ, c'est un projet de recherche mené sur le long cours. Et on en a plusieurs comme ça, l'un et l'autre, qui nous permettent aussi d'avancer comme ça sur des dossiers à plus long terme.
Alors je voudrais juste aussi apporter une précision concernant le service de numismatique. Donc Thibaut, tu l'as rappelé, c'est un service qui a été mis en place au sein du laboratoire très tôt, dans le courant des années 70. Et depuis cette époque, il a une spécificité qui est assez rare en France, qui est, donc on en a suffisamment parlé, mais qui est l'étude des trouvailles monétaires en contexte archéologique. Vraiment, ce qui fait l'originalité aussi des travaux que l'on mène à Caen, c'est bien cette relation avec le contexte archéologique, le contexte de découverte des monnaies. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément pratiqué ailleurs, parce que la numismatique n'est pas forcément une discipline représentée dans toutes les universités et dans tous les laboratoires français, et parce que aussi la numismatique peut se pratiquer d'une manière aussi différente, c'est-à-dire que certains laboratoires vont plutôt mettre en avant une approche archéométrique de la discipline, c'est-à-dire l'étude des métaux, plus qu'une approche archéologique de l'objet. Donc voilà, donc ce qui fait aussi l'originalité et la spécificité donc de la numismatique que l'on pratique à Caen, c'est bien celle-là, c'est vraiment le rapport aussi à l'archéologie et resituer autant que faire se peut l'objet dans son contexte d'utilisation de l'époque. Si je prends aussi l'exemple des collections numismatiques qui sont très présentes dans les musées en France, eh bien, certains de nos collègues peuvent être aussi amenés à aborder la numismatique à travers ces collections par l'angle uniquement de la production, en fait, à partir de l'objet. Qu'est-ce que ça va nous apprendre sur les quantités produites et pas forcément toujours en lien avec les contextes d'usage des monnaies. Donc voilà, il y a plusieurs façons de pratiquer la numismatique, plus archéologique, disons plus quantitative aussi, ou plus archéométrique. À Caen, on a vraiment cette particularité autour des usages monétaires et la façon dont ces usages ont pu évoluer à travers le temps.
Et alors, on l'évoquait tout à l'heure, je me permets d'y revenir. Dans les premiers temps donc, de ce service, vous étiez concentré sur la Normandie. C'est sûrement une question un peu large, mais concrètement, quels étaient les usages monétaires normands dans l'Antiquité et comment est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'ils ont des spécificités ou pas tant?
Ah, c'est une vaste question. Bien évidemment que les usages de l'époque n'ont plus rien à voir, ou de manière peut-être très lointaine, avec les usages aujourd'hui de la monnaie. On a différents indices. Effectivement, les questions de circulation aussi vont nous indiquer sur la manière dont on utilisait la monnaie. Le fait aussi que l'on, à certaines époques, on peut retrouver avant tout les monnaies thésaurisées, donc c'est-à-dire regroupées au sein de contenants, nous en disent long sur la manière dont on utilisait la monnaie et la relation qu'on avait à la monnaie. Par exemple, à l'époque gauloise, donc deuxième siècle, disons, avant notre ère, on s'aperçoit que, en Normandie en particulier, que les monnaies d'or sont souvent découvertes au sein de ce qu'on appelle des trésors, des dépôts monétaires. Et ces monnaies d'or, on va finalement les retrouver très peu ou pas du tout, de manière isolée sur les chantiers de fouilles archéologiques. Donc la monnaie est avant tout découverte au sein de contenants, donc ce qui probablement nous indique que la monnaie ne circulait pas au quotidien et qu'elle était encore une fois réservée à des usages très spécifiques, à des paiements importants, de gros paiements. Voilà. Ça, c'est ce qui peut caractériser les époques les plus anciennes de l'histoire monétaire en Normandie. Après, pour la période romaine, et parce que c'est aussi ce qui caractérise la période romaine, c'est qu'on a affaire à une multitude de dénominations, une multitude de métaux qui sont frappés, et là les usages vont être beaucoup plus diversifiés, et les différents chantiers archéologiques nous offrent des cas de figure, des exemples très très particuliers. Alors bon, malheureusement je reste un peu large, c'est peut-être un peu délicat de rentrer dans le détail. Je sais pas si Thibaut, tu veux donner un exemple pour le Moyen-Âge.
Il n'y a pas non plus de spécificité typiquement normande. C'est plutôt en fonction des périodes qu'on va avoir des courants culturels qui font que les usages vont être différents entre l'époque celtique, le bas Moyen-Âge et aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut toujours se rappeler qu'avant la Première Guerre mondiale, globalement, l'essentiel de la valeur de chaque monnaie est défini par le métal précieux qu'elle contient. Donc quand vous avez une monnaie, très souvent, il y a une part d'or ou une part d'argent. Et d'autre part, quasiment personne n'a accès à une banque. Donc c'est-à-dire que si vous avez de l'argent de côté, si vous l'épargnez, peu importe, il n'y a pas de billets. Donc en fait, tout le monde a des quantités relativement importantes de monnaie à gérer, à cacher. Et donc ça fait qu'effectivement, les usages jusqu'en 1914, on va dire, sont quand même extrêmement différents de ce que nous on fait aujourd'hui, où tout le monde a chéqué, carte bleue... Et la dématérialisation en cours rend ça encore moins perceptible pour beaucoup de gens.
Vous travaillez tous les deux sur le projet de base de données Numus 2. Et qu'est-ce qu'elle répertorie exactement, cette base ?
Alors cette base, pour faire un petit historique, elle est partie d'un constat. Les chantiers archéologiques sont très nombreux en France depuis des décennies. Donc les archéologues sont amenés à trouver des centaines, des milliers de monnaies au cours de leurs différents chantiers. Et jusqu'à présent, en France, il n'existait pas de base de données pour centraliser ou du moins rendre plus facilement accessibles ces différentes informations qui peuvent être, vous le comprenez bien, assez colossales au fil du temps. Donc Numus, au démarrage, et encore aujourd'hui, bien évidemment, et encore plus aujourd'hui, justement, est destiné à rendre cette documentation plus facilement accessible pour permettre justement à l'information de mieux circuler. Donc c'est cette volonté véritablement de référencer d'une manière systématique, je ne parle pas d'exhaustivité, mais du moins de référencer de manière systématique les nombreuses découvertes qui sont mises au jour à l'occasion des différents chantiers archéologiques réalisés sur le territoire national.
Et là-dessus, on peut dire qu'il y a eu trois chantiers à mener conjointement. Le premier, c'était d'essayer d'élaborer un modèle de données pour décrire toutes ces trouvailles extrêmement diverses pour des périodes extrêmement diverses d'une façon normée. Et donc ça, c'est quelque chose que, alors que Jacqueline Pied-Lemaire en son temps avait déjà entrepris, que Pierre-Marie a continué à sa suite et qu'on a repris aussi tous les deux à la faveur d'un confinement, il me semble. Donc ça, c'était le premier chantier. Le deuxième chantier consistait à créer l'interface numérique. Et donc là, c'est avec nos collègues du pôle document numérique de la MRSH qu'on a pu constituer en fait ces outils numériques pour héberger la base et traiter l'information et faire un portail en ligne ensuite. Et le troisième chantier, c'est d'essayer ensuite de mettre tout le monde d'accord, tous nos collègues, pour que, enfin au moins une part importante, pour qu'en fait cet outil-là ne soit plus interne à nous, quelques-uns du service de numismatique du CRAM, mais soit proposé plus largement à la communauté scientifique et approprié, même en termes de pilotage, de gouvernance et de choix stratégiques pour demander des subventions. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a entamé, ce dernier point, on va dire il y a à peu près un an ou deux. Et donc c'est finalisé depuis hier ou aujourd'hui, donc on en est extrêmement content, par la signature d'un consortium qui réunit donc le CRAM, la MRSH, donc le pôle document numérique, d'autres UMR, donc unités mixtes de recherche qui sont l'IRAMAT d'Orléans et IDE, le Havre Rouen-Caen, et aussi l'INRAP au niveau national, donc l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui est le principal opérateur d'archéologie préventive publique en France. Donc tous ces organismes, en fait, on vient de signer ce consortium-là. Et après, nous, l'idée, c'est de l'ouvrir à des partenaires extrêmement variés, d'autres opérateurs d'archéologie, d'autres petits labos, des musées, qui pourront eux-mêmes verser leurs données sur cet outil-là en se conformant au modèle de données discuté.
Oui, donc pour valoriser l'ensemble de ces découvertes archéologiques et aussi pour répondre à une dynamique qui a pu être mise en place dans d'autres pays à l'échelle européenne. Donc c'est vrai que la France pouvait accuser un certain retard dans ce type d'initiative, et aujourd'hui, voilà, on a quelque chose qui répond bien aussi au désir d'une communauté plus large, communauté européenne, de permettre la circulation, une meilleure circulation en tout cas des données numismatiques et des trouvailles monétaires en particulier.
Et donc ce projet, il s'appelle Numus 2. Pourquoi vous avez choisi ce nom ?
Alors il y a deux réponses. La première, c'est aussi en hommage à mon prédécesseur, Jacqueline Pilier-Lemierre, qui avait, comme l'a rappelé Thibault, qui avait construit la première base dédié à cet inventaire des trouvailles monétaires. Donc elle avait choisi le nom de Numus. Puis on a décidé de le maintenir parce que aussi Numus, c'est le nom d'une monnaie d'époque romaine, qui est une petite monnaie d'usage quotidien. Et ça nous semblait tout à fait pertinent de maintenir cette intitulée parce que c'est bien sur ce type de monnaie que l'on travaille. Les trouvailles monétaires, je le disais tout à l'heure, c'est avant tout des monnaies d'usage quotidien qui ont été perdues. Et le Numus est une monnaie d'usage quotidien pendant l'Antiquité, donc ça répondait aussi assez bien à l'essence même finalement de ce programme.
Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres centres de recherche au-delà du projet Numus, du coup ?
Alors, tu en as rappelé plusieurs. On est amené dans le cadre de programmes de recherche, donc ce que tu appelais les recherches de fonds que nous sommes amenés à mener sur des termes en particulier, le faux monnayage, Thibault, la classification aussi des monnaies médiévales et modernes. Et dans le cadre de ces programmes, on est amené, et c'est heureux hein, d'ailleurs, à collaborer avec d'autres collègues qui sont dans d'autres laboratoires. Et qui sont aussi des laboratoires qui sont des laboratoires spécialisés dans les études numismatiques, comme l'IRAMAT à Orléans, etc. Donc, évidemment, aujourd'hui, on est plutôt dans une recherche qui nous amène à échanger avec d'autres collègues issus d'autres instituts, d'autres laboratoires.
Mais oui, on travaille beaucoup avec l'INRAP ou d'autres opérateurs d'archéologie. On travaille pas mal aussi avec la Bibliothèque nationale de France, la BNF et leur département monnaie médaille antique, avec des musées aussi, je pense au musée de Normandie à Caen ou au musée des antiquités de Rouen. Donc effectivement, c'est plus un tissu, un réseau de personnes qui travaillent ensemble.
Ouais, avec des instituts aussi qui peuvent être à l'étranger. Il y a une emprise régionale, il y a une emprise nationale, on l'a dit, mais on a aussi des projets qui se construisent à l'international à travers donc la thématique du faux monnayage en Égypte qui nous amène à travailler avec l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Voilà. Donc c'est une ouverture qui est très fertile, bien évidemment, pour faire avancer nos réflexions.
Merci beaucoup Thibault Gardon et Pierre-Marie Guillard d'être venus à notre micro. On le rappelle, vous êtes respectivement chargé de recherche CNRS au CRAM et responsable du service numismatique du Centre Michel Bouard. Bonne journée à vous.
Merci
de votre
bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Vendredi 21 mars, rendez-vous à 19h à l'amphithéâtre Pierre d'Or pour une brève histoire des millénaires, comment commémorer le Moyen-Âge. Cette conférence inaugurale organisée dans le cadre du millénaire de Caen vous sera présentée par l'historien Patrick Boucheron. C'est gratuit, mais pensez à vous inscrire en amont depuis le site de l'université.
L'exposition « Les victimes de la barbarie nazie » à Caen démarre aujourd'hui à l'église du Vieux Saint-Sauveur. Portée par le laboratoire Istémé, cette série de portraits et de récits honore la mémoire d'habitants de Caen morts en déportation ou exécutés par le régime nazi. Elle est gratuite et ouverte jusqu'au 12 avril, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Et on termine avec une recommandation documentaire, la locomotive du progrès sur Arte. Suivez ce panorama de plus de 200 ans d'histoire du chemin de fer. Du train à vapeur au TGV, ce moteur de l'industrialisation a révolutionné le transport des humains et des marchandises. Le documentaire sera diffusé samedi 22 mars à 21h sur Arte. Vous pourrez par la suite le retrouver en streaming sur le site de la chaîne. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine et dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.